Vous êtes à l'écoute de Conversations RH. Dans cette collection de podcasts, vous allez découvrir des éclairages d'experts passionnants qui vous apportent, chers auditeurs, des réponses concrètes aux problématiques liées aux ressources humaines et à la vie de l'entreprise. Alors n'hésitez pas à découvrir les épisodes des différentes saisons de Conversations RH dans lesquelles nous traitons les ressources humaines sous des angles sociétaux, psycho et techno. Comment faire face au brownout de vos équipes? Les recrutements dans le métaverse sont-ils possibles? Quels sont les bons tips pour les candidats et les recruteurs? Ou encore comment améliorer l'attractivité marque employeur? Toutes ces réponses sont dans Conversations RH. Belle écoute! Bonjour à tous et bienvenue sur Conversations RH. Je suis David Gordon et je suis votre hôte sur ce podcast. Nous poursuivons notre mini-série d'échanges éclairés entre experts RH. Conversations RH est un contenu qui vous est proposé par LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement et évaluation d'experts, cadres et dirigeants. Les experts LHH Recruitment Solutions vous ouvrent leurs portes et leurs micros dans ces podcasts pour vous aider à aller plus loin. Et nous allons explorer aujourd'hui l'Assessment Center en compagnie de deux experts de LHH Recruitment Solutions. D'abord, Jean-Pierre Bodina. Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour.
Jean-Pierre, tu es directeur Talent Management. Tu es arrivé il y a un an chez LHH Recruitment Solutions pour prendre la direction de l'équipe de Talent Management.
Absolument.
Également avec nous, Aurore Cazeran à distance. Bonjour Aurore.
Bonjour.
Aurore, tu es arrivé chez LHH Recruitment Solutions il y a 6 ans. Tu es psychologue du travail et de formation et tu es la référente Assessment Center pour la région Rhône-Alpes. On est ravis d'avoir tes éclairages aujourd'hui.
Merci, moi aussi.
Et nous allons ensemble découvrir comment l'Assessment Center ou centre d'évaluation est un moment à part dans une carrière et comment procède-t-on pour en tirer le maximum de valeur pour les salariés, pour les candidats ou pour l'entreprise. Et à la fin de cet épisode, nous vous donnerons des exemples, des conseils et des exercices très concrets pour vous y préparer au mieux. Allez, c'est parti pour Conversations RH, 3e épisode. Ravi d'être avec vous aujourd'hui pour cet épisode de Conversation RH en compagnie de deux experts de l'Assessment Center, un sujet qui n'est pas courant d'explorer dans les différentes littératures RH, dans les différents podcasts qui sont disponibles. Donc, on est ravi d'avoir deux experts pour en parler. Avant de discuter avec toi, Aurore, j'ai une question, Jean-Pierre. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est qu'un Assessment Center?
Bien, bah écoute, toujours ambitieux cette thématique puisqu'on en parle souvent sans trop savoir ce qui se cache derrière. Un assessment center, c'est un terme anglo-saxon, centre d'évaluation. Aujourd'hui, on s'en est un peu éloigné, mais le centre d'évaluation, c'est on s'imagine demain, on souhaite être astronaute, on va être dans un centre presque un peu médicalisé, technique, scientifique, où on va passer à la moulinette tous les futurs prétendants pour aller marcher sur la Lune.
D'accord.
C'est un peu ça, un assessment center.
Ça. C'est-à-dire qu'on dit souvent que les avancées sur la Lune, les avancées de la NASA et les avancées d'aérospace, par exemple, peuvent être utilisées au quotidien par les citoyens. Et là, on a un exemple dans la RH. Donc, c'est intéressant, c'est pas courant. Et là aussi, l'avancée spatiale nous aide dans la RH. C'est incroyable, mais c'est ça.
C'est ça. Alors, en fait, l'assessment center, il est né un peu entre les deux guerres et la volonté, c'était les scientifiques allemands qui souhaitaient avoir l'élite des militaires, qui ont mis en place des dispositifs à la fois médicaux, scientifiques, pour sélectionner les meilleurs des meilleurs, notamment les pilotes de la Luftwaffe. Et ensuite, ça a été repris par les Américains, les services secrets israéliens, etc. Donc, c'est vraiment une technique à la base militaire qui a ensuite été reprise par le monde de l'entreprise, plutôt pour sélectionner les plus grands patrons sur des postes et fonctions stratégiques.
Alors, on imagine un assessment center, on imagine un grand centre dans lequel on arrive avec plusieurs étages, on passe du bureau 1B au 2B, au 3e étage avec la petite feuille rose.
Alors, c'était ça il y a bien longtemps. Aujourd'hui, ça s'est beaucoup amélioré en termes de process, beaucoup allégé, beaucoup digitalisé. Et puis, ça s'est adapté au monde de l'entreprise. Et donc, on n'est plus dans un registre militaire, loin de là.
Mais on voit quand même plusieurs personnes lors d'un assessment center.
Oui, alors un assessment center, souvent, le public résume l'assessment center à la dynamique de groupe. On a tous passé une dynamique de groupe ou un entretien collectif et on se dit, bon, ben voilà, j'ai passé un assessment center. C'est beaucoup réducteur puisque l'assessment center, c'est véritablement une juxtaposition d'outils, de méthodes, dont on parlera sans doute un peu plus tard, et de regards croisés. Donc, c'est un expert de l'entretien, un expert des questionnaires psychométriques, un expert de la mise en situation. Chacun va faire passer son outil, sa méthode, et à l'issue de la demi-journée, de la journée, parfois d'un mois, d'un trimestre, on croise les regards et les méthodologies. pour avoir un diagnostic précis d'un individu en environnement professionnel.
Et Aurore, tu as une comparaison qui m'a fait rire lorsqu'on a échangé avant ce podcast. Tu dis que c'est le spa des salariés ou des candidats. Pourquoi c'est un spa?
Tout à fait. Je l'appelle effectivement le spa du salarié ou des candidats parce que dans toute une carrière, il est quand même excessivement rare d'avoir le temps, un vrai temps consacré rien qu'à soi, à son écoute, à établir des liens sur tout ce qu'on a pu apprendre tout au long de son parcours professionnel. Donc, on dédie ce moment pour ce salarié, pour identifier ses ancrages, ses forces qu'il a eues, mais également pouvoir définir ensemble ses axes d'amélioration pour qu'il puisse continuer à progresser.
D'accord.
Et ce temps est rien que pour lui.
Bah
donc,
oui.
C'est pour ça que je l'emploie en comparaison à un spa.
Et comme un spa où on va d'un poste à l'autre, du massage au sauna, bah c'est un peu pareil avec l'Assessment Center, si j'ai bien compris.
Exactement.
Jean-Pierre, depuis combien de temps cette pratique se démocratise, Jean-Pierre ?
Disons depuis les années 90. Ça m'amuse cette image aurore de spa, parce que dans un spa, finalement, on a des massages qui sont plus ou moins profonds, on a des jets d'eau, on passe avec une crème douce parfois et des jets qui sont beaucoup plus musclés. Et j'aime bien cette image.
Et toi, tu t'occupes du massage musclé, du coup, Jean-Pierre ?
Parfois, ça dépend en fait, ça dépend de la philosophie de l'entreprise, du poste, de ce qu'on attend de nous. En tant que consultant, nous, on doit respecter le cadre précis, la méthodologie, la déontologie de l'Assessment Center, mais on doit surtout s'adapter à la philosophie et la marque employeur de nos clients.
Depuis quand cette pratique se démocratise ?
On va dire depuis fin des années 90, début des années 2000 pour le monde de l'entreprise. Mmh. Ça s'est beaucoup démocratisé avec les campagnes de recrutement en volume. Mmh. Quand on recrutait des masses de jeunes diplômés, essentiellement d'écoles de commerce par exemple, eh bien, pour industrialiser les process, on a mis en place de l'Assessment Center et on est sorti du classique entretien en face à face individuel.
D'accord. Lorsqu'un Assessment Center est utilisé dans le cadre d'un recrutement, c'est à quelle étape qu'il est employé ?
Alors, c'est variable, mais souvent, c'est plutôt en amont parce que on va davantage sélectionner, présélectionner les candidats. Et puis ensuite, on affine le process de sélection pour les finalistes. Mais ça peut être aussi dans le cadre d'une mobilité. Ça peut être dans le cadre d'un candidat où on n'a qu'un seul candidat potentiel et on souhaite avoir une vision très fine du profil des moteurs du candidat pour mieux l'intégrer dans le monde de l'entreprise.
Alors, raconte-nous, Aurore, comment ça se passe quand on rentre dans ton cabinet ? Je rappelle que tu es psychologue du travail et tu es une des expertes qui fait passer un certain nombre de tests. Si je suis candidat ou si je suis salarié, comment ça se passe quand je rentre dans ton antre ?
Eh bien, ça se passe plutôt bien.
J'espère,
en général.
J'espère.
La première chose qu'on cherche à faire, c'est accueillir, rassurer, détendre tant que possible la personne qui vient d'être assessée, ce qui est normal. Il y a toujours une légère part de stress. Et pour ça, nous, notre rôle, c'est vraiment de rassurer la personne quant à la démarche qui se veut bienveillante et le candidat reste maître de son assessment, parce que tout est débriefé au fil de l'eau et au fil du temps. En amont, l'assessment et la journée sont déroulées, le candidat en est informé. On l'a prévenu de ce qui allait se passer. Donc, il y a quand même une zone de confort qui existe, où ce n'est pas un total inconnu. Donc, on s'occupe bien de lui. Et maintenant, après, c'est vrai qu'on le passe un petit peu à la moulinette aussi, puisqu'il est observé dans son ensemble.
Ouais. Alors, on le dit depuis tout à l'heure, hein, l'Assessment Center, ça concerne les candidats et ou les salariés. On comprend bien l'intérêt, lorsqu'on recrute un nouveau candidat, de faire passer un certain nombre de tests en vue de son recrutement. Qu'en est-il des salariés ? Dans quel cadre ça s'applique aux salariés, Aurore ?
Alors, tous les contextes, en fait, peuvent exister. Ce qu'on a, nous, souvent, comme demande, ce sont des profils qui arrivent à un stade de leur carrière et ont envie de nouveau, de changement, et ils savent pas exactement où aller, vers quoi se diriger. L'assessment peut justement les aider, eux et leur entreprise, à identifier, comme on le disait précédemment, leur ancrage, leur point de force, et éventuellement sur quoi ils peuvent travailler pour se développer. Donc, ça peut leur permettre des mobilités internes sur d'autres services de l'entreprise.
Ouais.
Et j'ai eu le cas, il y a quelques années, d'une personne experte technique en ingénierie qui, au cours de l'assessment, a révélé son secret, un intérêt très fort pour les achats. On a orienté un peu l'assessment là-dessus et il y a eu mobilité vers les achats grâce à cela.
D'accord. Donc, si une entreprise veut faire une mobilité pour un salarié ou une salariée, si elle veut peut-être la promouvoir ou le promouvoir, ben, un assessment center peut permettre d'identifier si toutes les forces, toutes les compétences, toute l'intelligence émotionnelle est en présence pour pouvoir faire accéder à ce poste-là.
Exactement. Ce qu'il faut noter, c'est que l'assessment n'est pas que fait pour des mouvements verticaux. Ouais. On ne fait pas que des assessments pour devenir manager. Les mouvements peuvent être aussi transverses.
Très bien. Alors, vous faites un certain nombre de tests. D'ailleurs, restez avec nous jusqu'à la fin de ce podcast parce qu'on va vous donner quelques tests, quelques exercices très précis. Mais juste avant, Jean-Pierre, comment ont évolué ces tests? Ça fait un certain nombre d'années que les assessments existent. On l'a dit, entre l'entre-guerre pour l'aspect armée, spatiale, etc. Et c'est arrivé ensuite dans l'entreprise. Mais comment ont évolué les tests, Jean-Pierre?
De façon assez marquée. Moi, quand j'ai commencé ma carrière, il y a un peu plus de 25 ans, les psychologues, on avait notre diplôme pour aller rue Serpente et prendre des documents papier-crayon avec des feuilles autoscorables. Et on était sur des éditions de tests de 1948, pour ceux qui les connaissent. Donc, c'était un peu la préhistoire de l'assessment. Aujourd'hui, les choses sont digitalisées, les rapports sont automatisés. On projette le candidat avec des solutions proches de son environnement de travail. Donc, ça s'est très nettement amélioré et c'est beaucoup plus adapté à l'environnement qu'on connaît. Ça s'est informatisé.
Est-ce que vous cherchez les mêmes choses que il y a 25 ans?
Non, parce que auparavant les outils étaient des outils plutôt issus de la psychologie clinique. Donc on parlait de presque, sans parler véritablement de maladie mentale, mais on parlait de névrosisme par exemple. Aujourd'hui, si on parle de névrosisme dans le monde de l'entreprise, ce serait complètement anachronique. Alors que aujourd'hui, on va parler de flexibilité mentale, d'adaptation, de leadership, qui sont les termes de l'entreprise. Et les outils auparavant qui étaient faits par les psychologues pour des psychologues sont faits aujourd'hui par des chercheurs en sociologie. Et donc, on va avoir des outils et un vocable très proche du monde de l'entreprise pour des salariés.
Jean-Pierre, à mon époque, et là, ça fait vieux quand je dis ça, j'avais l'impression que les recruteurs cherchaient des écoles cibles et on était un très grand nombre à être embauchés à la sortie d'écoles, ESC, école de commerce, école d'ingénieurs, peu importe. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, avec les assessment centers, on n'est plus forcément en train de chercher des compétences, mais plutôt des qualités personnelles. Est-ce que je me trompe?
Pas du tout. En somme, il reste encore ces écoles cibles dans beaucoup d'entreprises et ça rassure les étudiants parce que finalement, en France, on a un parcours d'élite scolaire. Et donc, quand on a fait une grande école, eh bien, on va certainement plus facilement intégrer certaines fonctions. En revanche, pour l'ensemble des entreprises, aujourd'hui, on va pas simplement rechercher un diplôme parce qu'on se rend compte autour de nous que c'est pas parce qu'on a fait une formation de juriste qu'on est juriste 15 ans plus tard. On a développé d'autres compétences. Et donc, ce que les entreprises vont rechercher, c'est des capacités d'adaptation, une flexibilité mentale, une capacité à travailler en équipe, à faire preuve de force de proposition, oui, à faire preuve de leadership, d'initiative, d'innovation. Et ça, c'est de la soft skills.
D'accord.
C'est pas délivré par un diplôme.
On vous renvoie sur le premier épisode de Conversation RH où on a parlé largement avec Jérémy Lamérite de soft skills. Même question pour toi, Aurore. Est-ce que tu as noté une évolution plutôt dans les résultats des tests? Est-ce qu'on change en fonction des années, des générations?
Effectivement, depuis 6 ans où j'ai la chance de pouvoir pratiquer régulièrement des assessments, l'assessment se démocratise, lui, de plus en plus. Donc, les candidats ont entendu parler de cela. Ils savent de quoi il s'agit. Il y a 6 ans, ils avaient l'impression de passer vraiment un test. C'était presque le bac. C'était assez dur. Aujourd'hui, on en entend parler, on sait à peu près à quoi cela correspond et on entend aussi de plus en plus parler de la gestion des émotions,
oui,
de l'intelligence émotionnelle. Ce sont des sujets qui touchent beaucoup d'entre nous, professionnellement, socialement, et sur lesquels les personnes sont de plus en plus à l'écoute. Donc, on voit dans les résultats que les personnes sont plus sensibles aux sujets qu'on aborde, plus à l'écoute de leurs émotions et dans cette gestion.
D'accord.
Et effectivement, on peut voir des résultats qui ont vraiment évolué en ce sens.
Mais alors, comment on peut traduire avec certitude la trajectoire d'un candidat ou d'un salarié qui va avoir une mobilité, Jean-Pierre, avec ces tests?
Alors, avec certitude, certainement pas. En revanche, dans les sciences humaines, on est dans ce qu'on appelle une science molle. Mais on a des outils qui sont aujourd'hui scientifiques, psychométriques, et donc qui vont permettre d'avoir une vraie prédictivité des résultats. Et quand on va croiser le comportement, la personnalité, les moteurs, le contexte, et puis le recul d'expérience que nous avons de nos métiers, on va avoir un vrai diagnostic fidèle sur la projection du candidat dans le monde de l'entreprise. Plus on va croiser les outils, les méthodes et les techniques, et plus on va avoir une prédictivité proche de la réalité. Après, il y a toujours le même facteur. On peut tout savoir du candidat, mais quand il va être, lui, dans l'entreprise, avec son futur manager, si ça ne fonctionne pas, ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas forcément anticiper.
Est-ce qu'on peut se dire que on a plusieurs intelligences et que les différentes intelligences sont des choses qui sont stables finalement, qui peuvent évoluer avec des compétences, avec des formations, mais on a une intelligence qui est globalement stable.
Oui.
C'est ça que ça veut dire.
Oui, alors on a plusieurs intelligences, c'est la bonne nouvelle. Hein.
Ça, c'est bien.
Tant mieux.
Ça, parce que si je suis nul en maths, je peux être fort socialement ou je peux être fort avec mes émotions.
Mais oui, et tu peux être nul en maths sur le maniement, donc sur le numérique, mais tu peux être plutôt bon sur les volumes et l'abstraction. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. On a des intelligences. Et ces intelligences, ce sont ce qu'on appelle aussi donc des invariants. Au-delà autour de 23 à 25 ans, on est ce qu'on appelle stabilisé. Et donc, on a nos capacités qui sont stabilisées dans le temps. Et donc, si on mesure avec finesse en assessment notre niveau d'intelligence, ce qu'on appelle aujourd'hui l'approche cognitive. Hier, on parlait d'intelligence. Aujourd'hui, on parle plutôt d'approche cognitive, donc c'est-à-dire la façon dont on perçoit notre environnement. Eh bien, ça va être un élément extrêmement prédictif de la capacité de l'individu à s'adapter dans son monde d'entreprise.
D'accord. Ça veut dire qu'on peut quand même le muscler ou pas avec des formations, toutes ces intelligences?
Oui, on peut, mais on a nos limites. Donc, c'est-à-dire que si je suis véritablement mauvais dans mon orientation spatiale, même si je travaille ce point, ce trait, je serai jamais plus fort que ce que je peux.
Aurore, est-ce qu'on peut tricher, s'entraîner comme un fou avant de faire un assessment center?
Non, on ne peut pas tricher. Et pourtant, certains vont beaucoup regarder, se renseigner avant de venir connaître les tests. Mais je suis navrée pour l'ensemble des candidats. Un assessment, c'est vraiment un salarié qui est analysé dans son ensemble.
Bon, tu donneras quand même tout à l'heure des exemples de tests sans révéler trop de secrets, mais tu vas nous donner quelques clés quand même tout à l'heure, Aurore.
On pourra en donner quelques-unes.
Est-ce que tu parlais de spa tout à l'heure? Quand on va dans un spa, on voit tout l'intérêt que ça va avoir un spa sur nous. Est-ce que les personnes qui passent dans ton bureau jugent de la même manière l'intérêt que va avoir l'assessment center pour eux?
Alors, je l'espère bien. Au démarrage de la journée, ils ont tendance à trouver ça très abstrait et flou. Et à la fin de la journée, tout prend sens. Sens. Exactement. C'est comme un puzzle. On a une personne qui arrive avec plein d'idées sur lui. Et en fait, nous, c'est rassembler tout cela pour qu'il puisse avoir une bonne vision de lui-même, professionnellement, toujours, sur ses ancrages, ses forces, et être capable de dire, bah, effectivement, j'ai du leadership, j'ai une capacité à gérer les conflits, ou au contraire, j'ai tendance à fuir les conflits. Je sais avoir une bonne communication dans une relation à deux, en duo, et en revanche, j'ai des difficultés dans la prise en parole en public. Et ça, c'est identifié immédiatement par le candidat. Nous, on lui donne des clés tout au long de cette journée. Et effectivement, je pense qu'à la fin de la journée, on sait immédiatement poser des mots sur ce qu'on est en mesure de faire et sur quoi on peut encore travailler pour continuer à s'améliorer.
Alors, Aurore, quelle méthodologie de projet permet de faire un bon assessment center? Comment on prépare ces assessments?
Alors, la méthodologie, elle est faite avec l'entreprise qui nous demande cet assessment. Donc, c'est un travail de co-construction. Dans un premier temps, on a connaissance de l'entreprise, des enjeux, du contexte, de ce qui se passe et pourquoi il y a cette demande. Donc nous, notre rôle, c'est bien d'identifier, comprendre la demande et ensuite, on co-construit l'assessment. Donc nous, on a une énorme boîte à outils, on pioche dedans des tests, des questionnaires, des outils, des situations, des jeux de rôle, enfin, tout est là. Et ensuite, on construit. Une fois que j'ai le contexte, les conditions, les attentes, j'envoie une proposition où je réalise en amont une ingénierie sur cet assessment.
D'accord.
Et avec la personne, on définit ce qu'il faut. Donc, chaque assessment est réalisé sur mesure pour l'entreprise et la personne que nous rencontrons.
D'accord. Et lorsqu'on arrive en tant que candidat Comment ça se passe? Le petit café du matin et après, bim, c'est parti. Comment ça s'organise?
Alors d'abord, le candidat, je l'ai appelé en amont et je l'ai déjà eu au téléphone. Donc, il me connaît, en tout cas, il connaît ma voix. Je lui explique la journée, son déroulé, les exercices. Je le rassure au maximum pour qu'il puisse venir dans les meilleures conditions et qu'il puisse profiter de ce moment qui lui est dédié. Et il arrive effectivement, petit café ou thé du matin, et on prend un temps d'échange et ensuite déroulé de la journée. Les exercices se succèdent, s'enchaînent, et si je suis de bonne humeur, peut-être une petite pause pour le déjeuner.
Ah, c'est sympa. Jean-Pierre, quelle valeur l'entreprise tire-t-elle des assessment centers, de ton expérience?
Alors, plusieurs. La première des valeurs, c'est la communication qu'on a vis-à-vis de ses collaborateurs ou de ses salariés. On leur dédie un moment et c'est souvent un cadeau. Alors, c'est pas forcément toujours perçu comme tel, mais en revanche, c'est un coût, un assessment center, c'est un coût financier, c'est un coût en termes de temps, c'est une application. Et donc, on propose pas un assessment center à tous les salariés ou à tous les candidats. Donc, rentrer dans un processus d'assessment center, c'est déjà une marque de distinction. Et donc, quand soi-même, on est dans une dynamique d'assessment center, il faut le prendre en tant que tel. Et puis, la seconde valeur, c'est comment avoir une approche qui va pas simplement être fondée sur ce que je sais du collaborateur, mais m'appuyer sur un regard extérieur et avec une dynamique moins de sélection aujourd'hui et plus de développement.
Ouais.
Donc, on parle moins d'ailleurs d'assessment center et de plus en plus de development center. Donc, c'est aller mesurer les écarts, aller mesurer le potentiel pour avoir plus d'éléments dans la réussite des projets futurs du collaborateur ou du candidat.
Mmh. Est-ce que ça joue un rôle de marque employeur positive? Par exemple, on s'occupe de mon développement, on va m'aider à me développer, etc. Ou alors, à l'inverse, ça joue un rôle un peu contre-productif. Par exemple, oh là là, tu vas faire cet assessment center, ça veut dire qu'on va te passer au crible et on n'est pas certain de tes qualités, de tes compétences, donc on a besoin de faire un test pour le savoir. Ça peut jouer les deux rôles, en fait. C'est pour ça que je pose cette question.
Alors, comme le disait Aurore, c'est toujours un échange préliminaire avec nous, notre commanditaire. Et donc, on insiste beaucoup sur cette dynamique-là pour pas rajouter de l'anxiété à la situation anxiogène d'évaluation. Et donc, pour nous, on ne fait pas d'assessment en termes de barrage ou pour sélectionner des candidats. Mais on est véritablement dans une dynamique positive pour donner du feedback au candidat, quelle que soit l'issue de la décision à la fin du processus. Il faut qu'il reparte avec un bénéfice direct, une meilleure connaissance de lui-même.
D'accord. Comment on traite ces anxiétés globales, Aurore, qui peuvent intervenir de la part du collaborateur, de la collaboratrice, mais également des équipes qui entendent qu'il y a un assessment center qui est fait pour certains? D'ailleurs, est-ce qu'ils le savent? Est-ce que c'est pas confidentiel, cette information?
Cela dépend. C'est pas à nous de positionner cela auprès de l'entreprise. En général, ça n'est pas confidentiel longtemps s'ils le souhaitent.
Les
personnes se parlent. Et on tient, nous, beaucoup en amont à valoriser la démarche et à remettre vraiment la place de l'assessment, ce que ça symbolise auprès du salarié ou du candidat à ce moment-là. Comme l'a dit Jean-Pierre, c'est un cadeau de l'entreprise. Il faut bien se rendre compte que les assessments ont lieu sur leur temps de travail, auprès du cabinet. Donc, tout cela est pris en charge par l'entreprise et ça a un coût pour l'entreprise, simplement l'assessment. Donc, c'est une valorisation du candidat et nous tenons bien à le repréciser en amont de la journée d'assessment pour que le candidat vienne, au contraire, en se disant que c'est une véritable opportunité pour lui à saisir.
Est-ce que tu as connaissance des gains? Est-ce qu'ils sont immédiats ou pas pour l'entreprise, pour le collaborateur, la collaboratrice?
Certainement. On ne pourrait pas le mesurer de manière quantitative avec des chiffres, mais vous avez une personne, comme je vous le disais, qui est remotivée, qui a des mots, qui sait où il en est et qui a un peu envie d'en découdre en quittant l'assessment center. Mmh. Donc, vous avez un gain immédiat. Là-dessus, il y a un sentiment d'appartenance en plus fort encore auprès de son entreprise. Donc, on la revalorise. Le candidat a envie encore d'avancer. Lui-même se sent valorisé dans son entreprise. Donc, il y a toujours un positionnement qui est intéressant de cette personne auprès des équipes, la façon dont ça va rayonner autour de cela. Et on peut voir aussi un gain en productivité en fonction des sujets. Mmh. J'ai une candidate qui, elle, rencontrait une difficulté depuis un certain temps. Elle avait du mal à identifier cela. On en a discuté ensemble au cours de l'assessment. L'expertise technique était là, les idées étaient là, la façon d'organiser, structurer l'équipe était là. Et en fait, c'était simplement un problème de communication et la façon dont elle retransmettait les messages. On a travaillé une chose ou deux spontanément au cours de l'assessment. Et elle m'a rappelé quelques jours plus tard, pour dire que tout avait changé au sein de l'équipe. En un quart d'heure, il avait juste simplement changé et ajusté quelques petites choses.
Ouais, parfois, il faut s'entendre dire les choses par quelqu'un d'autre pour en prendre encore plus la mesure. Et j'imagine que lorsqu'on rentre dans ton bureau, on est dans un cadre de psychologie. Tu es psychologue du travail, on le dit. Et donc, il y a peut-être une confidentialité qui fait qu'on est dans un moment de partage, dans un moment de transparence et de vérité.
Bien sûr. Il est important que les candidats ou salariés comprennent bien que ce qui se dit reste entre nous. Si certains sujets deviennent confidentiels, on le garde, bien évidemment. Et tout ce que nous retranscrivons auprès de l'entreprise, ils en sont eux-mêmes informés en amont. Donc, on leur fait une lecture précédente. Ils maîtrisent tout ce qui se passe tout au long du process, en amont et en aval.
Très bien. Eh bien, on va parler de ces exercices très concrètement. C'est parti pour la deuxième partie de ce podcast. Allez, on l'a dit en début de cet épisode, on va être très pratico-pratique. Alors, on ne va pas révéler les secrets de fabrication, parce que par définition, ce sont des secrets. Néanmoins, on va donner quelques types de tests qui sont proposés. Et je crois, Jean-Pierre, que tu n'aimes pas ce mot de test, tu préfères le mot questionnaire.
Oui, alors en fait, scientifiquement, tu as raison, ce sont des tests, hein, puisque les tests renvoient à la psychométrie. Et la psychométrie est une science humaine qui est certainement aujourd'hui une des plus fiables. En revanche, on préfère, nous, toujours parler de questionnaire, on préfère sonder une opinion, une préférence au travail, plutôt que cette notion de test qui renvoie un peu à la dynamique réussite et échec.
Alors, quels sont ces questionnaires que tu peux peut-être nous présenter? Aurore pourra compléter sans problème.
Ce sont les grands questionnaires aujourd'hui qui existent, qui sont des questionnaires d'aptitude cognitive, donc les tests de raisonnement logique. Hein, on a tous connaissance des dominos, des séries de chiffres, de mots.
On n'a pas tous connaissance de ça. Hein. Qu'est-ce que c'est que le domino?
De cubes qui tournent dans l'espace, de liens logiques plutôt rationnels, irrationnels. Donc, on va mesurer les différents types d'intelligence du candidat sur quels sont mes types de raisonnement logique ou de connaissance. Donc ça, ce sont les questionnaires, on va dire, d'approche cognitive. On a des questionnaires qui sont ceux qu'on connaît aujourd'hui le plus largement, qui sont les questionnaires de personnalité, où on va sonder les préférences d'un candidat ou d'un collaborateur dans son environnement professionnel. Savoir s'il préfère travailler seul ou en équipe, quid de son assise identitaire, de sa résistance au stress, de sa prise de parole en public, etc. Et puis, on a des questionnaires aujourd'hui qui se sont développés sur l'intelligence émotionnelle. Mmh. On s'est rendu compte qu'on n'avait pas que des intelligences rationnelles, on a aussi des intelligences émotionnelles, la gestion de nos émotions. Comment je détecte ta sympathie ou ta colère, c'est très important pour un manager, puisque je dois m'adapter en conséquence dans mon interaction de manager de proximité. Et puis, les autres exercices, ça va être ce que disait déjà Aurore tout à l'heure, à savoir des mises en situation. Donc, des mises en situation qui peuvent être au plus proche de la situation professionnelle ou au contraire, des mises en situation projectives. On va mettre un candidat dans une situation conflictuelle, d'arbitrage, de gestion de consensus, de gestion relationnelle.
On n'est pas obligé d'avoir tout bon, 100% sur tous les questionnaires, on est bien d'accord.
Surtout pas.
Surtout pas.
Et d'ailleurs, est-ce qu'on peut tricher un assessment? Oui. Est-ce que ça se voit? Oui. Ouais. Est-ce que ça sert le candidat? Non.
D'accord.
Parce que le premier bénéfice, c'est le candidat qui va...
en tirer quelque chose.
Ben oui. Et donc, si je ne donne pas la bonne information, l'image qu'on aura de lui sera erroné et il repartira avec un mauvais portrait de lui-même.
Ouais. Aurore, ouvre-nous ta boîte à outils un petit peu. Allez, quel type de test tu proposes? On a parlé de domino. Je crois qu'il y a un test, un vieux test qui consiste à trier le courrier. Mais je ne sais pas si vous le faites encore pour voir comment on s'y prend. Est-ce que c'est vrai?
C'est vrai. Ce test existe et on l'emploie encore. Et c'est vraiment le test favori de nos cadres et dirigeants.
D'accord.
Donc, tri de courrier ou in basket.
Qu'est-ce qu'on cherche, par exemple, concrètement, dans le tri de courrier?
Ça, je ne peux pas vous le dire.
Ah secret mystère. Est-ce qu'une fois que le test est effectué, les résultats sont communiqués? Comment ça se poursuit le process après. On se dit au revoir et c'est terminé.
Voilà, on abandonne le candidat et on le laisse seul livré à lui-même. Il est ravi. Bien sûr que non. Déjà, tous les tests et questionnaires, je rejoins Jean-Pierre là-dessus, sont débriefés avec le candidat. Donc, il a information, des éléments qui sont traduits par ces questionnaires. La fin de la journée d'assessment, nous réalisons avec lui un débriefing complet sur sa journée. Et c'est le candidat lui-même qui exprime ce qu'il a perçu de lui. Nous, on est là que pour apporter un effet miroir, confirmer avec lui ses ancrages, ses forces et les axes d'amélioration qu'il aura définis aussi lui-même.
Ouais.
Et bien évidemment, il garde nos coordonnées parce que il y a ce côté à chaud, il y a le côté à froid avec la réflexion. Donc, on lui fait la lecture avant de l'envoyer à son entreprise, la lecture de la rédaction de notre assessment.
Et tu conseilles pour la suite en fonction des résultats.
Hein. Exactement.
Si par exemple, on va être très concret, c'était la promesse du début de ce podcast, donc soyons très très concrets. Si j'ai un problème avec les conflits, et c'est vrai, voilà, je te le confie, Aurore, j'ai un problème avec les conflits, moi personnellement, je n'aime pas le conflit. Qu'est-ce que tu peux me conseiller?
Effectivement, j'ai un tip, ce que je donne parfois à mes candidats, c'est que on peut se permettre plus facilement de faire des erreurs ou rentrer dans des conflits avec des proches, des très, très proches. Et souvent, les conflits viennent d'un problème de communication, de difficulté à apporter, à passer des messages. Et donc, je propose aux candidats de s'entraîner. En fait, on peut tout dire, c'est à partir du moment où on sait bien amener les choses.
Ouais.
Et il y a certains sujets qui sont pas toujours bienvenus et bien vécus, comme des sujets politiques, ou alors peut-être adresser des mots délicats à son conjoint ou sa conjointe. Et je propose justement, typiquement, à une personne ACC de le week-end, au moment d'un convivial avec des amis, des proches, de préparer une intervention sur un sujet où il sait qu'il va offusquer l'ensemble de la table.
Ah.
Et de préparer des arguments, un discours en restant posé, calme et étant en mesure de tenir cette conversation. Pas forcément de chercher à convaincre, mais d'être capable d'apporter un message et une vision qui soit différente des autres.
J'en ai marre, mamie, du poulet rôti du dimanche midi. Je n'en peux plus.
Voilà.
Puis alors, ça lance le débat et puis voilà, quoi.
Exactement, en restant très calme et très serein. Et à partir du moment où on peut arriver à dire ça et voir qu'on peut avoir des réactions de personnes en face qui, peut-être vont au départ s'agiter, mais en fait, finalement, se calmer, montre qu'on est en mesure, n'importe qui, de gérer des conflits et de porter des messages. Il vaut mieux le faire chez soi qu'au travail.
Ouais. Aurore, moi, je suis un cas particulier parce qu'en plus d'avoir des difficultés avec les conflits, j'ai du mal à gérer mes émotions. Qu'est-ce que tu peux me conseiller? J'ai l'impression d'être chez le psy, du coup. Je vais m'allonger, je crois.
Je dirais que pour la gestion des émotions, la première chose à faire est peut-être de se scanner soi-même, d'être capable de prendre quelques instants sur soi et d'identifier ce qu'on ressent. Est-ce qu'on a les mains moites? Est-ce qu'on tremble? Est-ce qu'on a le cœur qui bat vite, fort? Tout ça sont autant d'indices qui nous indiquent dans quel état émotionnel on se trouve. Ce qu'on a peut-être certains tics ou tocs dont on se rend pas compte, c'est là déjà, on a des informations sur soi qui nous permettent de pouvoir les traiter et peut-être prendre le temps de mieux respirer.
Pour des cas de prise de poste, Aurore, comment on peut faire la bonne impression?
Alors ça, c'est un tips peut-être plus que personnel, mais souvent on dit que la première image est toujours celle que l'on retient. Et dans une cas de prise de poste, commencer par sourire, c'est quand même la première image que les gens auront de vous.
Très bien. Et voilà, on sourit. Vous ne nous voyez pas, mais on sourit très fort dans ce podcast. On se sent dans un environnement de bienveillance. Jean-Pierre, j'ai envie de t'interroger pour terminer ce podcast sur le futur de l'Assessment Center. Quid des pratiques qui vont évoluer, qui vont apparaître peut-être dans les prochains mois, dans les prochaines années?
Oui, c'est une projection positive puisque je pense que ça va être une pratique qui va non seulement se développer encore, mais surtout se démocratiser. Hier, on parlait d'assessment pour des cadres, des dirigeants, des fonctions stratégiques. Ça s'est démocratisé aujourd'hui pour des fonctions qui peuvent être sans doute un petit peu moins hautes dans la hiérarchie de l'entreprise. On va néanmoins faire un assessment parce que ça reste un poste clé stratégique. On va utiliser des nouvelles méthodologies, je pense au digital. Les outils, eux, se transforment. On va être en réalité augmentée. C'est déjà expérimental hein, dans certains labos avec des mises en application. On imagine qu'on se met un casque sur la tête et qu'on va être proche d'une situation simulée de travail. On va avoir des outils plus adaptatifs. Donc, ils vont encore plus s'adapter aux réponses du candidat. Et en fonction de la réponse, je vais avoir un scénario qui va être proposé différent des autres candidats qui vont répondre au questionnaire. On peut avoir des avatars. Donc, on le voit, les outils, le digital vont permettre d'avoir des solutions qui vont être toujours plus innovantes pour être dans des situations toujours plus proches de la situation de travail et encore plus prédictives.
La technologie va arriver avec, j'imagine, des data, des metrics, des KPI, des choses qui vont vous permettre d'analyser encore plus finement au travers de la technologie.
Oui, j'ai hâte. Et puis, on va pouvoir aller sur encore plus la gestion des émotions, encore plus la coordination motrice. On va avoir des joysticks qui vont permettre de voir la coordination gauche-droite, etc. Donc, je pense que la science va vite en ce moment et il va y avoir des applications encore plus directes dans le monde de l'entreprise qui vont servir les processus d'évaluation et d'assessment et donc de development center.
Aurore, une conclusion avant de se quitter?
Si vous avez la chance et l'opportunité que votre entreprise vous propose de faire un assessment, dites oui et profitez-en au maximum.
C'est une très bonne conclusion. Merci beaucoup, Aurore Cazeran. Je rappelle que tu es psychologue du travail de formation. Tu es référente Assessment Center pour la région Rhône-Alpes. Tu es à distance avec nous depuis ta belle région. On te remercie pour tes éclairages et pour tes tips très concrets. Merci également Jean-Pierre Bodina. Je rappelle que tu es directeur du Talent Management chez LHH Recruitment Solutions. Merci pour tes éclairages, ton décryptage de l'Assessment Center. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode d'entretien passionnant comme aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner pour être tenu au courant des prochains épisodes de Conversation RH, le podcast d'échanges éclairés entre professionnels RH. À très bientôt.